Radioscopie. Radioscopie.
Christa Pellissier.
Jacques Chancel. Christa Pellissier, vous avez voulu que l'âge d'or des grandes aviatrices continue. 30 ans après Maryse Bassier, vous avez pensé qu'une fois encore, il fallait en venir à bout de l'Atlantique Sud en 1964 à bord d'un monomoteur. D'un seul coup d'aile, vous avez jeté un pont de 3200 km entre Dakar et Natal, Natal au Brésil. Nous sommes en 1974, alors 10 ans après, estimez-vous que c'était une folie, votre entreprise ?
Ah non, pas du tout, ça n'était pas une folie, c'était une réalité qui existait en moi depuis longtemps, parce que j'avais dit à 17 ans, je traverserais l'Atlantique. J'avais oublié entre-temps, parce que ça paraissait quelque chose d'inabordable sur tous les plans. Et puis un jour, ça s'est présenté tout seul. Et je crois que quand on peut relier deux continents, on ne l'oublie jamais, c'est la plus belle chose qui peut arriver dans une vie.
Enfin, c'était il y a 10 ans, vous aviez 32 ans, mais vous aviez 2 enfants.
Eh oui.
Alors, lorsque je posais la question tout à l'heure, était-ce une folie ? Il y a l'exploit gratuit, mais il n'est pas tellement gratuit, l'exploit,
eh bien,
si l'on va jusqu'au bout.
Eh bien, voyez-vous, justement, j'ai conservé de cette époque pas mal de coupures de journaux, et j'en garde une très précieusement, une première page d'un grand hebdomadaire de français, où il y avait en grand titre « Christa Pellissier traverse l'Atlantique », ce qui a fait plaisir à ma maman, et dessous... En très gros plan également, une photo représentant 2 enfants orphelins depuis 2 heures parce que leurs parents venaient de se tuer sur la route. On ne choisit pas. On ne choisit pas. La vie est comme ça. Je crois que c'est pas parce qu'on traverse l'Atlantique qu'on prend plus de risques quand on prend sa voiture. La preuve, c'est que ces 2 enfants étaient orphelins. Et j'ai gardé cette coupure parce qu'elle m'a semblé symbolique totalement justement de ce qu'on m'a largement reproché avant mon départ en me disant « tu es mère de famille, tu n'as pas le droit ».
Vous pensez qu'on se fait beaucoup d'idées sur les risques ?
Ah oui, énormément. La preuve, c'est que M. Didier Dora, bien avant, et John Batten encore bien avant, puisque c'est en 1931 que John Batten a traversé la première fois l'Atlantique, là, il fallait de l'imagination. En 1964, je faisais que suivre une trace. Marquée physiquement, je dirais. Puisque c'est un pilote de l'aéropostale à Dakar qui m'a fait cette route. Et elle est marquée physiquement, cette route. Et cette route est facile. Parce que je crois qu'elle répond, et là ça devient très compliqué, elle répond à quelque chose d'extrêmement naturel. Didier Dora, je ne le connais pas. Je ne connais pas ses pilotes non plus, je ne les ai pas connus. Mais ce monsieur, s'il a fait la postale au départ de la France, et vers le Sahara, et vers Dakar, par le Sahara, et ensuite par l'Atlantique Sud, c'est que ce monsieur avait bien réfléchi. Et s'il avait bien, il avait bien réfléchi, et il avait considéré que c'était une route sans problème, et que c'était une route spectaculaire, mais pas difficile du tout à réaliser, avec régularité. Et en fait, j'ai découvert en 1964, je n'ai fait que vérifier ce que M. Didier Dora avait dû penser.
Et c'était vraiment sans problème. Dakar-Natal sans problème.
D'ailleurs,
3200 km, monomoteur.
Une chose très importante, c'est que personnellement, j'étais affolée la veille du départ. Enfin, affolée un peu avant, mais affolée surtout la veille du départ. Je vais parler d'une nuit de condamnée à mort. Je connais. Très exactement une nuit de condamnée à mort. Je me suis dit, demain, pour toi, c'est fini, plus de soleil, plus jamais, tu reviendras plus. C'est une folie, on ne fait pas 3200 km comme ça. Je suis un pilote de tourisme. Ça, c'est pour agaillardir tous les pilotes de tourisme, mes frères.
Tous pourraient le faire.
Je pense que tous pourraient le faire s'ils avaient la chance d'avoir le même entraînement que celui que j'ai pu avoir. C'est-à-dire, non pas un entraînement attitré pour l'Atlantique Sud, mais le fait de vivre dans un avion. J'ai un ami récemment qui calculait que j'avais dû passer 1 an complet en vol. Il n'y a rien à cacher, j'ai été brevetée à 16 ans, j'ai 26 ans de brevet, j'ai énormément...
Combien d'heures de vol ?
Énormément. Je ne compte pas mes heures parce que je trouve ridicule de mettre des minutes en boîte. Je trouve que ça, c'est quelque chose de totalement périmé et je pense que maintenant, on ne devrait plus penser à mettre des minutes en boîte, on devrait penser à évoluer vers des qualifications, vers des tests. Mais compter ces heures de vol, c'est comme si vous comptiez les heures que vous faites en voiture, vous ne pouvez pas les compter.
Mais Christa Pellissier, avant de partir pour cette aventure, vous étiez... remarquablement consciente, vous venez de le dire à l'instant, j'étais une condamnée à mort.
Totalement consciente. Vous savez, Lindbergh, dans son livre, dit, lorsqu'il a fait l'Atlantique Nord, je n'ai pas dormi. Et il dit, je ne sais pas pourquoi. Je suis effrayée par cette phrase, parce que s'il ne sait pas pourquoi, moi je peux lui dire.
Alors, c'est pourquoi?
Pourquoi? Mais parce qu'il y a 3200 km d'océan. Et 3200 km d'océan, quand vous couchez, vous savez, à Dakar, là, tout près de la mer, dans cet hôtel dont je ne donnerai pas le nom, et que vous sentez l'océan qui bat le pied de l'hôtel, c'est impressionnant. Dites-vous aussi que je suis un pilote de jour, puisque les pilotes de tourisme français sont des pilotes condamnés au jour.
Et vous partiez la nuit?
Et je partais la nuit. Et je faisais là mon premier décollage de nuit, mes cinq premières heures de nuit sur l'Atlantique. Et on a beau être très fort, on a beau être... j'ai appris tout dans l'aviation comme ça, parce que c'est un problème aussi de l'aviation, c'est qu'on a du mal, les écoles ne forment pas dans un but extrêmement précis. C'est-à-dire qu'on ne vous amène pas à une certaine qualification en dehors des jeunes qu'on veut amener au commandant de bord. Mais ceux qui ont, comme moi, le goût de l'aviation générale, l'aviation de tourisme, on ne les forme pas comme ça, et on nous laisse un peu de côté. Et alors, j'ai dû découvrir comme ça beaucoup de choses. La traversée d'un nuage, la traversée d'un orage, la traversée d'une montagne, enfin d'une chaîne de montagnes, etc. On découvre chaque jour en volant. C'est fatigant, mais c'est quelquefois exaltant. Et là encore, j'allais découvrir le vol de nuit. Et c'était merveilleux.
Chrysabelli, si vous vouliez renouveler l'exploit de Mermoz, vous prouvez quelque chose, vous dépassez...
Non, je voulais me faire plaisir.
En acceptant le pire.
Ah non, pas du tout. Je n'ai jamais admis le pire. Pour moi, la certitude était totale.
La peur, ce n'était pas le pire.
Ah non, mais la peur, on a peur régulièrement en avion. Enfin, à partir du moment où on est conscient, on a peur. On a peur parce qu'il y a des dangers. Hier, je descendais un escalier, j'étais en Allemagne, j'étais devant le monsieur qui était venu avec moi, et je descendais un escalier métallique, et il me dit, vous descendez doucement. J'ai dit, oui, j'ai très peur, quand je pense à tout ce qui pourrait m'arriver. Alors il m'a dit, ça c'est très drôle, il faudrait l'écrire. Non, c'est vrai, je suis très peureuse. Je ne sors jamais la nuit, seule, bien sûr. J'ai très peur d'un chien, je fais 100 mètres pour contourner un chien. J'ai très peur de deux hommes en colère, j'ai très peur, je suis très peureuse. En avion, je suis très bien, c'est tout, ça s'explique.
Est-ce que vous avez fait en 1964, vous pourriez le refaire aujourd'hui?
Eh bien, en 68, j'ai fait le tour du monde, avec deux difficultés plus grandes encore que
l'Atlantique
Sud.
Mais le tour du monde, c'était plus difficile que l'Atlantique Sud?
Oui, parce qu'il y a une continuité. Ouais. On part, il faut rentrer, il faut ramener l'avion. Eh bien, le plus grand danger que j'ai couru dans le tour du monde, alors qu'on s'est fait le Pacifique Nord, entre Kushiro et les Aléoutiennes, vous savez, là où on passe la ligne, on décolle le 12, on se pose le 13. Non, on décolle le 13, on se pose le 12. Oui, c'est très difficile. Eh bien, malgré ce grand bond du Pacifique, le plus gros danger que j'ai couru, c'est un camion-citerne sur l'aérodrome de Tokyo qui a fait marche arrière sur mon avion. C'est là où j'ai pris le plus de risques. J'ai cru que mon avion allait être cassé.
Et à chacune de vos aventures, Chrysabelli, ici, on vous disait « Et vous êtes une femme ». Et cela, alors là, vous faisait bondir.
Non, pas du tout. Moi, je suis ravie d'être une femme. Et puis, je suis ravie que les hommes trouvent que ce soit bien que je sois une femme.
Non, mais cela voulait dire qu'on ne faisait pas confiance aux femmes.
Je sais, j'ai de la chance, on me fait confiance. Je vois les gens qui volent autour de moi, qui volent avec moi. J'ai la chance de... Je sais pas si c'est parce que les gens m'aiment bien, en tous les cas, on me fait confiance. Et on ne m'a jamais fait supporter ce... Je suis depuis toujours dans le milieu aéronautique. Et je vais vous dire en confidence, j'ai un caractère épouvantable. Alors, on n'a pas intérêt à venir me dire des petites choses de ce genre. Alors, si ça se dit, ça se dit en dehors de moi, mais devant moi, jamais.
Oui, mais lorsque vous étiez sur l'Atlantique Sud, et lorsqu'on vous appelait parce que vous faisiez des rencontres,
oui,
on vous demandait d'abord quel était votre avion, vous disiez monomoteur, on s'étonnait déjà.
Oui.
Et puis,
silencieusement.
En plus, qui? Une femme, enfin. Oui. Et alors là, ça les étonnait.
Oui, beaucoup.
Ça leur embouchait un coup.
Oui. C'était des Italiens. Ils ont été... Vous savez, c'est très difficile pour un avion de ligne de porter un secours moral à un petit avion qui vole sur l'Atlantique tout seul. Et je trouvais que ces deux équipages, un Français d'abord, que j'ai croisé 2 heures après mon décollage à peu près, et qui venait de franchir le poteau noir et qui était très impressionné en pensant que dessous le poteau noir, un petit avion allait passer. Ils ont eu cette phrase merveilleuse, vous êtes monomoteur ou bimoteur. Je dis phrase merveilleuse alors qu'elle paraît toute simple, mais elle n'est pas simple, parce qu'elle résume bien l'esprit des gens. Même un bimoteur, ça les aurait impressionnés. Et monomoteur, alors là, ça les a rendus totalement silencieux. Et ensuite, ces Italiens, alors eux aussi, très très impressionnés par cette voix de fille qui sort aiguë, bien sûr. Je n'ai pas une voix très grave. Alors, ils m'ont dit, mais vous êtes un homme ou vous êtes une femme? Il y avait un doute. Et j'ai répondu, je suis une femme. Et alors, encore là, un bon silence sur l'antenne. Et c'est magnifique.
Enfin, il y a tout de même des noms de femmes dans l'aviation. Ben, Adrienne Bolland,
oui.
Maryse Bassier,
oui.
Jacqueline Auriol, Chrysa Pellissier, vous.
Ah, je ne sais pas. Enfin, je ne sais pas si on peut
vous
me
avez
mettre
inscrit,
au bout de la
quand
ligne.
Même.
Ah, je ne sais pas. Parce que ces femmes-là ont eu de l'imagination par rapport à moi. Moi, j'ai la tête dure.
Qu'appelez-vous l'imagination?
Elles ont créé. Elles ont créé. Et pour l'instant, j'ai la sensation que l'aviation... Alors, je suis un peu un cas à part. L'aviation, moi, m'a tout donné. Quand vous parlez avec Adrienne Bolland, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de la rencontrer.
Je l'ai rencontrée. Elle était à votre place.
C'est une fille formidable. Quand je l'ai rencontrée la première fois, elle ne m'a d'abord pas dit grand-chose. Et puis ensuite, on a eu l'occasion de se voir plus longuement. Et là, elle a commencé doucement à me raconter. Mais c'est effrayant ce qu'a vécu cette fille. Effrayant. Elle ne se laisse jamais aller aux confidences, d'ailleurs, en public. Elle a eu avec moi des mots parce qu'elle savait très bien que je pouvais comprendre. Mais elle m'a raconté des choses qui étaient épouvantables. Et ça, je ne connais pas. Je suis une enfant gâtée de l'aviation. L'aviation m'a tout donné. J'aimerais lui donner un petit peu quelque chose.
Mais vous avez voulu ressusciter des noms parce que vous avez quand même repris des vols qui rappelaient Saint-Exupéry, Mermoz...
Parce que c'est la logique.
Didier de Rat.
Ces vols sont la logique même. C'est pour ça qu'on m'a retrouvé sur ces routes-là. Parce qu'on retrouvera demain d'autres pilotes sur ces routes-là. Parce que ces vols sont la logique. Il est logique de la première fois où je suis partie en voyage, mon premier voyage, avec un petit avion de 90 chevaux, biplace, sans radio, c'était Fort-Lamy. C'était la première fois que je sortais de France. J'ai donc fait le chemin de la postale par la côte saharienne. Et vous savez que c'est merveilleux de se poser à Cap-Juby, qui est maintenant un terrain fermé, avec les pilotes espagnols qui pilotaient les vieux Junkers. Ils avaient encore des vieux Junkers, ces pilotes espagnols en grande tenue blanche, avec le père blanc au milieu d'eux à table. Ce sont des souvenirs extraordinaires. Pour moi, avoir connu Cap-Juby, c'est une chose que je n'oublierai jamais. C'est vraiment quelque chose d'incroyable dans
ce
désert.
Vous pensez, Christa Pellissier, que l'aviation prendra de l'importance dans les années qui arrivent, dans les dizaines d'années, dans les siècles.
Ne parlons pas du passé, parlons du présent.
Oui,
l'aviation a une importance considérable.
Vous parlez de l'avenir, là.
L'aviation a une importance considérable. On est en train de prendre du retard, nous, en France. Et je ne comprends pas pourquoi. Parce que l'exemple, de toute façon, est donné par les États-Unis qui trottent devant. Et quand on va aux États-Unis, je suis allée, j'ai la chance en plus encore une fois d'être allée aux États-Unis toute seule, en monomoteur, et ça, on a un accueil bien sûr tout particulier de l'aviation directement. Lorsque je me suis posée sur ces grands terrains américains, Los Angeles, Denver, Eugene, New York, j'ai cru rêver, moi, la marchande d'avions qui vendait les avions à la petite sauvette, pratiquement. J'ai vu là des avions, vous voyez, la place de la Concorde à 7h du soir.
Oui, vous avez dit vendeuse d'avions. Vous vendez
oui,
des avions.
Oui, marchande d'avions. Oui, j'ai été marchande d'avions 18 ans de ma vie.
Mais si vous avez fait... si vous avez tenu ce pari, traverser l'Atlantique Sud, si vous avez fait le tour du monde, c'était peut-être parce que vous étiez un excellent agent de relations publiques.
Ben, c'est comme ça que je le voyais, moi, en tous les cas. J'espère que les autres le voyaient aussi comme ça. Il est évident que qui peut le plus peut le moins.
On peut vendre des avions.
Non seulement on peut, mais on devrait en vendre beaucoup plus. Mais c'est très difficile de vendre des avions, parce que lorsque vous faites la vacherie, entre guillemets, de vendre un avion à un monsieur, vous êtes très content de vendre. Le monsieur est ravi. Il touche le jouet de sa vie, c'est son train électrique. C'est vraiment une joie. On voit le client baigné dans le bonheur. Et on se dit, demain, ses problèmes commencent. Parce qu'il a un avion, qu'il habite la France, un pays merveilleux par ailleurs, et que demain, il va avoir un problème. Pour garer son avion, pour entretenir son avion, pour utiliser son avion. Enfin, toutes sortes de choses tellement compliquées que j'avais en finale de ma carrière de vendeuse d'avion très, très mauvaise conscience.
Enfin, Christa Pellissier, vous croyez à l'avenir de l'aviation, mais tout de même, du moins en ce moment, l'avion est réservé à une classe privilégiée. Pourquoi ? Parce que l'avion, c'est quand même une denrée chère.
Non, pas du tout. Pas du tout.
Pas du tout.
Le kilomètre passager en avion est moins cher que le kilomètre automobile.
Pour l'homme ou la femme qui achèterait un avion comme on achète une voiture.
Oui. Eh bien.
C'est quand même réservé.
Mais non, ça n'est pas réservé du tout, puisque tout se reporte dans le temps. Je pense qu'à partir de... C'est comme tout. Si vous n'en avez pas besoin, c'est effectivement trop cher. Mais si vous en avez besoin, à partir de là, ça devient rentable. Et si ça devient rentable, ça n'est plus cher. Les gens me disent souvent, jamais on aura un avion comme on a une voiture. Bien sûr que oui, parce qu'il ne faut pas que ces mêmes gens oublient que leur grand-père ignorait totalement qu'un jour, leur petit-fils aurait non seulement sa voiture, mais que sa femme aurait la sienne, et que leurs enfants, dès qu'ils auraient 18 ans, auraient la leur. Pour le grand-père, s'il revenait aujourd'hui, ce serait affolant de voir l'automobile tellement rentrer dans les mœurs. Il ne faut pas oublier qu'aux États-Unis, 70% des heures de vol sont faites par les pilotes privés. Qu'un vol privé aux États-Unis a le pas sur un avion de ligne. Ce qui est important, ce qui fait la masse des vols, c'est l'aviation privée.
Oui, mais jamais...
Jamais
il n'y aura autant d'avions qu'il y a d'automobiles. D'abord, dans quel monde irions-nous? Ça ne serait pas possible. Imaginons déjà les encombrements, les parkings, où mettre tous ces avions.
Au départ, de toute façon, il y a plus de place.
Deux avions dans une famille, c'est beaucoup. Hein.
Il y a plus de... Aux États-Unis, ça se voit. C'est fréquent. La femme a un avion, le mari a le sien.
Oui, mais pas d'une manière quand même...
Assez régulière chez les pilotes. J'ai rencontré plusieurs couples, des quantités de couples avec deux avions.
Mais très sincèrement, vous pensez que l'avenir, il faut le voir dans cette situation-là?
Il faut que nous, les pilotes, nous le voyions et il faut qu'on entraîne les gens autour de nous à le voir. Je vais vous dire une chose idiote, mais en France, là je vais me faire des ennemis, hein. En France, on est victime de notre passé aéronautique. Et c'est pour ça que, quelquefois, je me défends lorsqu'on parle d'exploits, quand on parle de l'Atlantique Sud ou du Tour du Monde, je me défends contre ce mot parce que j'aurais préféré qu'on le voit comme une réalisation pure et simple. C'est-à-dire, on a réussi l'Atlantique Sud en monomoteur, on a réussi le Tour du Monde en monomoteur. Et en monomoteur français, ce qui faisait quand même plaisir à tout le monde.
Donc, Chrysa Pellissier, vous ne voulez pas que cet exploit soit considéré comme un exploit?
Voilà, je veux pas être à l'intérieur d'un cercle fermé. Oui. Je veux que ce cercle soit ouvert, au contraire. Et j'aurais voulu que ces vols fassent venir du monde à l'intérieur et fassent école, que les gens soient plus confiants.
Fassent du bien à l'aviation.
Fassent du bien à l'aviation générale, que les gens partent en voyage rassurés, si on peut dire. Et alors que les gens partent toujours en voyage avec tellement de fantômes qui flottent autour de leur tête, en se disant très gentiment, je ne suis pas Mermoz, je ne suis pas Guillemère, en mettant les choses au pire, je ne suis pas, souvent on me l'a dit, je ne suis pas Chrysa Pellissier. Pourquoi ? On est fait comme les autres, on a deux pieds et deux bras. C'est ce que je me suis dit lorsque j'ai attaqué de nuit l'Atlantique. Je me suis dit, après tout, je ne suis pas la première à faire du vol de nuit. Il a bien fallu qu'un homme, un jour, fasse le premier un vol de nuit. Donc, il ne s'est pas tué pour autant. Il a continué à vivre, cet homme. Et donc, ce n'est pas si difficile que ça. Donc, on va réussir.
Quelle était votre hantise ? Était-ce ramener à bon port votre avion ?
Absolument. C'était la...
Plus que votre peau ?
Mais ma peau suivait, forcément. Quand on pense à l'avion, on pense à sa peau.
La machine avait plus d'importance que vous?
Non, la machine n'a pas plus d'importance que moi. Moi, j'ai une très grosse importance, je m'aime beaucoup. Mais ma machine compte, et j'ai toujours parlé à mes avions, et je les ai toujours considérés comme des bêtes pensantes, et je m'en suis toujours bien portée. Comme j'aime autant serrer la main d'un mécanicien, vous voyez, un mécanicien qui a les mains bien graisseuses, ça ne me gêne pas du tout de leur serrer la main, ça ne me gêne pas du tout d'être leur ami. Au contraire, je suis très heureuse parce que je vis avec ces gens-là. C'est grâce à ces gens-là que je peux voler et c'est grâce à eux que je pars en vol et que de temps en temps, sans faire l'Atlantique, mais en faisant bêtement Paris-Nice ou Paris même plus court, Paris-Nevers, je vais tenter un exploit. Sur un parcours très court, je vais tenter un exploit parce que le mécanicien m'a remis l'avion et que je sais qu'en conscience, lui aussi a fait son travail.
Et puis la seule manière d'accorder de l'intérêt à la machine, c'est se donner la possibilité d'arriver.
Absolument, c'est la chose la plus importante. Je crois que là encore, on revient en revenant dans ce passé, Didier Dora avait donné à ses pilotes cette notion d'arriver. Et je crois que ça, c'est très important. Un pilote qui fait demi-tour, pour moi, est un pilote qui me navre, qui me fait mal parce qu'il n'est pas content, ses passagers sont furieux. Tout va mal. Et lorsque l'on arrive à destination, c'est merveilleux et c'est formidable. Et c'est ça un vol réussi. Un vol est réussi quand on a touché des roues, on ne le sait pas avant.
Chrysa Pellissier, que pensez-vous de l'exploit gratuit, mais dans tous les domaines?
Ça existe, vous pensez? Je ne crois pas que ça existe. Je ne crois pas que quelqu'un risque sa peau ou sa vie pour un exploit gratuit.
Il y a toujours une intention.
Ah oui. Enfin, en ce qui me concerne, il y avait une intention extrêmement, extrêmement forte. Je voulais absolument... Vous savez, vous disiez tout à l'heure que j'étais une fille. C'est vrai, je suis une fille. Et à partir de là, je n'ai pas suivi la filière que mes camarades qui ont appris à piloter en même temps que moi ont suivi, qui ont fait des pilotes de chasse brillants, qui ont fait des commandants de bord en suivant, qui ont fait des commandants de bord sur Air France impeccables, merveilleux. Je n'ai pas pu suivre cette filière. Je le regrette pas parce que au début, lorsque j'avais 18 ans ou 20 ans, que je voyais mes camarades voler à l'époque sur F-104, je crois, pas me tromper, j'étais furieuse, bien sûr, parce que moi, j'en étais réduite encore à l'état du stamp, biplace 140 chevaux, et ça me plaisait pas tellement de revoir ces garçons, vous savez, les chevaliers du ciel. Je trouvais ça très désagréable, et je leur en voulais beaucoup. Et maintenant, je sens chez eux un petit pincement quand ils me rencontrent, parce qu'ils se disent que, dans le fond... Entre nous tous, celui qui a le mieux réalisé son rêve, parce qu'un rêve d'enfant, ça a des formes extrêmement précises, celui qui a le mieux réalisé son rêve d'enfant, c'est la fille.
Comment, alors, considérez-vous l'exploit d'Alain Colas? Car c'est un solitaire aussi.
Ah, me parlez pas de ça. Je suis d'une admiration totale. Je suis une froussarde épouvantable. La mer me fait horriblement peur. J'ai peur des bateaux. Moi, j'admire ces garçons, tous autant qu'ils sont. Que ce soit Colas, que ce soit la petite Marie-Claude Fourreau, que ce soit... J'ai une admiration totale. Je peux pas le leur dire parce que je n'oserais pas, parce que je suis relativement timide. Mais, béate d'admiration. Je n'ai pas de mots. Je trouve ça extraordinaire. Alors ça, ce sont des exploits.
Il vous arrive souvent, au plan du souvenir, de revenir à cette date. C'était, je crois, le 4 février 1964.
Oui.
Alors, 3150 km, je crois que c'est la chose.
Oui, c'est difficile à dire, mais c'est dans cette
12h40, vous avez
41.
Mis 12h40, parce que c'était important, cette minute.
Et c'est très important, c'est la minute où on touche le sol.
Et c'est le record, c'est...
Non, vous savez, il y a autre chose de très important dans l'aviation. On n'a pas tellement progressé. Non, ça n'était pas pour un record. On n'a pas tellement progressé dans l'aviation. Et les avions ne vont pas tellement plus vite. Ils sont beaucoup plus sûrs. Ils durent beaucoup plus longtemps. Si vous voulez, les moteurs maintenant peuvent durer 2000 heures, alors qu'à l'époque, les moteurs tenaient 200 heures ou 150 heures ou 100 heures ou même 50 heures pour la postale à l'époque. Ça n'est pas du tout un record. Ça n'était pas du tout fait dans ce sens-là et ça n'est pas du tout un record.
Chris Abélissier, nous allons prendre une première pause musicale. Vous avez choisi un disque de Jacques Brel et un titre, Le Plat Pays. C'est parce que vous le voyez d'en haut.
C'est parce que je le vois d'en haut et parce que j'ai vu cette chanson... très exactement comme il l'a écrite. J'ai fait un vol dont j'ai un souvenir qui restera longtemps, un vol parti de Amsterdam sur Cordoba en Espagne, et c'était le plat pays, avec les canaux pendus, les canaux perdus, et moi avec.
Alors Jacques Brel. Nous reprenons le cours de cette conversation. Je rappelle le nom de mon invité, Chris Abélissier. Je rappelle également son exploit en 64, la traversée de l'Atlantique Sud, en 12h41 à bord d'un monomoteur. Bon, vous êtes parti de Dakar un matin très tôt, dans la nuit, il doit être 1h du matin. Une heure et demie du matin. Alors, quelle est justement cette impression de départ? Tout à l'heure, vous disiez que vous aviez peur, mais était-ce seulement la peur?
J'avais peur, j'ai eu peur dans ma chambre d'hôtel. Une fois que j'étais dans mon avion, on
fini,
terminé.
Une fois que
plus rien, absolument plus rien. La mise en route du moteur. Le plus difficile, c'est de dire au revoir aux amis qui vous entourent. Et le commandant d'aérodrome de l'époque de Dakar s'appelait Monsieur Ballot, et ce monsieur a été d'une gentillesse exquise, en ce sens qu'il m'a préservé de ses contacts de départ. Et je suis, lorsque j'ai eu serré la main des quelques personnes qui se trouvaient présentes, parce que techniquement indispensables. Je suis partie et c'était terminé. L'émotion du départ passée dans les poignées de main, dans l'avion assise, c'était fini.
Vous aviez toutes les autorisations?
Elles étaient toutes verbales. Elles sont arrivées par écrit après mon arrivée à Natal, ce qui est très normal. Il n'y a rien d'extraordinaire.
Il faut demander une autorisation pour faire une chose comme celle-là?
Bien sûr. Pilote de tourisme qui veut faire l'Atlantique Sud, ça n'est pas normal. Alors il faut faire enquête. J'ai attendu 8 jours à Dakar. C'est très long, très long.
Et la crainte de dormir, c'est ça qui est important?
Non,
parce
pas
que
du
vous,
tout.
Vous partez au petit matin, même dans la nuit, 1h30 du matin, c'est quand même la nuit. Et si vous vous endormiez?
Non, c'est pas possible, on peut pas s'endormir. C'est une chose tellement merveilleuse qui vous arrive. C'est comme si vous pensiez qu'une femme qui va accoucher va s'endormir. Elle va pas s'endormir, elle va mettre son enfant au monde. C'est
et
la même chose.
Et tout se passe le mieux du monde.
Et tout se passe le plus merveilleusement du monde.
Mais quelles sont les inquiétudes? Il doit y avoir quand même
là-haut.
Il n'y
a aucune trace d'inquiétude.
Vous êtes à quelle hauteur d'abord? Quelle altitude?
Je suis à 2000 mètres au départ.
C'est assez?
Bien sûr, c'est très bien, c'est très confortable. Ouais. Il fait nuit très noire, il n'y a pas une étoile. Là, je comprends pourquoi Mermoz parle toujours pour son premier décollage d'une nuit de pleine lune. J'ai découvert cette notion lors de mon décollage. J'ai décollé en plein ramadan, donc sans lune. Et c'était tout noir, tout noir, tout noir. Mais c'était merveilleux parce que c'était mon premier décollage de nuit.
Mais à quoi pense-t-on?
Oh, je ne sais pas à quoi on pense.
À réaliser l'exploit?
Oui, on est parti. On est parti. C'est un vol comme un autre, en définitive, et il faut le mener à bon terme. Et je crois que le souvenir que j'ai gardé le plus précis, c'est celui du lever du jour. D'un seul coup, je me suis aperçue que je voyais mes mains, que je voyais mes instruments, que je voyais l'aile de mon avion... autrement que grâce aux phares et aux lumières. Et j'ai peut-être mis, je sais pas, peut-être une minute, peut-être cinq, le temps ne compte pas sur l'Atlantique, à me dire, c'est le jour. Ah, ça, c'était formidable. Et à ce moment-là, je me souviens, j'ai ri, toute seule dans mon petit avion, j'ai ri très fort parce que je me suis dit, en France, les gens se réveillent, ils savent que je suis partie, et l'angoisse maintenant, c'est pour eux. Parce que c'est plus facile de faire que d'atteindre. Beaucoup plus facile.
Lorsque le jour se lève, on peut penser que c'est déjà gagné.
Oui, c'est gagné. Ah oui, surtout pour une pilote de jour comme moi, c'est gagné, oui.
Mais auparavant, il y a eu la lune, il y a eu les étoiles, et on les voit d'une manière différente, et vous l'avez bien dit.
Oui, mais justement, c'est bien ce que je leur reproche, c'est qu'on les voyait pas cette nuit-là. Je pense que ça...
Non, mais on les imagine.
On les imagine, oui. On imagine que ça doit être formidable avec la même chose, avec des étoiles et avec un bon... C'était tout noir, tout noir, tout noir. Mais c'était merveilleux parce que c'était mon premier décollage de nuit.
Mais à quoi pense-t-on?
Oh, je ne sais pas à quoi on pense.
À réaliser l'exploit?
Oui, on est parti. On est parti. C'est un vol comme un autre, en définitive, et il faut le mener à bon terme. Et je crois que le souvenir que j'ai gardé le plus précis, c'est celui du lever du jour. D'un seul coup, je me suis aperçue que je voyais mes mains, que je voyais mes instruments, que je voyais l'aile de mon avion, autrement que grâce aux phares et aux lumières. Et j'ai peut-être mis, je sais pas, peut-être une minute, peut-être cinq, le temps ne compte pas sur l'Atlantique, à me dire, c'est le jour. Ah, ça, c'était formidable. Et à ce moment-là, je me souviens, j'ai ri, toute seule dans mon petit avion. J'ai ri très fort parce que je me suis dit, en France, les gens se réveillent, ils savent que je suis partie, et l'angoisse maintenant, c'est pour eux. Parce que c'est plus facile de faire que d'atteindre. Beaucoup plus facile.
Lorsque le jour se lève, on peut penser que c'est déjà gagné.
Oui, c'est gagné. Ah oui, surtout pour une pilote de jour comme moi, c'est gagné, oui.
Mais auparavant, il y a eu la lune, il y a eu les étoiles, et on les voit d'une manière différente, et vous l'avez bien dit.
Oui, mais justement, c'est bien ce que je leur reproche, c'est qu'on les voyait pas cette nuit-là. Je pense que ça...
Non, mais on les imagine.
On les imagine, oui. On imagine que ça doit être formidable avec la même chose, avec des étoiles et avec un beau clair de lune, ça doit être extraordinaire.
Mais on doit également imaginer les souvenirs qui reviennent en cascade, parce que c'est toute l'enfance qui doit défiler. J'avais rêvé de faire ça lorsque j'étais une petite fille.
Ah, c'est extraordinaire. Parce que je sais pas, peut-être que d'autres personnes connaissaient, je leur souhaite, mais je vous assure qu'en ce qui me concerne, ça n'est pas une vague histoire, c'est une réalité. J'ai décidé à 12 ans d'être pilote, très brutalement, et sur une très grosse colère. Oui, une très très grosse colère. J'étais très en colère. L'injustice des hommes, ça existe. Enfin, quand je dis des hommes, j'entends par là des êtres humains, puisqu'il s'agissait essentiellement de femmes, puisque ça se passait dans un collège. Et j'ai été très en colère parce qu'on avait soumis une de mes amies à une injustice épouvantable. Et j'ai fait une très grosse colère et on m'a dit, tu ne feras jamais rien avec un tel orgueil. Et j'ai répondu, mais séance tenante, et ça c'est très précis aussi dans ma mémoire, j'ai répondu, je serai pilote. Parce qu'il me fallait une réponse, il fallait que ces grandes personnes, une fois pour toutes, plient devant moi, et elles ne voulaient pas plier devant moi.
Mais pourquoi l'avion ?
Oui, je ne sais pas, je ne peux absolument pas répondre à cette question. Ce que je sais, c'est que cette réponse est venue, mais très spontanée. C'était la guerre, il y avait des avions, il y avait des pilotes. Le plus vieux souvenir que j'ai de l'avion, puisque mes parents n'ont jamais approché ni de loin ni de près l'aviation, ils en ont été assez malheureux, ces braves gens. Le plus vieux souvenir que j'ai, c'est à l'âge de 7 ans, alors que je suis relativement feignante, et je le suis restée d'ailleurs. Je recopie un texte d'un livre scolaire où il est question d'un avion et d'un pilote. C'est tout. Je ne sais pas d'où ça vient. Ça vient de très loin. Ça vient peut-être de nulle part. C'est peut-être simplement parce qu'il me fallait une réponse. Et heureusement, j'ai répondu, je serai pilote. J'aurais pu peut-être répondre bien d'autres choses.
Mais quelle a été la réaction de vos parents, Christelle Pélissier?
Parce
qu'une petite fille qui dit à ses parents, je veux être pilote, oui. Je veux monter dans un avion, je veux un avion à moi, cela peut paraître bizarre.
Oui, d'autant plus que si vous vous replacez dans le milieu dans lequel j'évolue à l'époque et dans lequel je vis, mes parents sont grecs. Maman est donc une maman grecque et mon père un papa grec. Et ces gens-là, vous savez, sont très près de leurs enfants. On vit dans la cellule familiale, très très, très fermée. Et on n'a pas le droit de sortir le soir. Et mes sœurs aînées m'en parlent très souvent en me disant on ne comprendra jamais pourquoi pour toi, ça s'est passé comme ça. Il semblerait que ma mère ait dit, lorsque j'avais environ 14 ans, et que je m'étais inscrite dans un club à l'âge de 12 ans, donc très peu de temps après, j'avais suivi des cours, je suivais des cours le soir, ce qui faisait le drame dans la maison. Cette petite fille de 13 ans qui rentrait le soir à 11h ou à minuit, ça paraissait pas croyable. Moi, je trouvais ça très naturel et tout simple.
Simple pour vous, mais pas pour la famille.
Oui, alors ma mère disait donc, il ne faut pas contrarier Christa. parce qu'elle avait senti chez moi, cette femme qui a dans sa vie surtout beaucoup travaillé, elle avait senti chez moi sans doute cette détermination totale et elle a eu très peur. Elle a eu très peur et elle le dit maintenant. Elle a dit, j'ai eu très peur que si on t'arrêtait, tu ailles jusqu'au suicide. Je le crois pas, parce que j'ai pas du tout un tempérament à vouloir me supprimer ou à vouloir me détruire. Mais cette femme l'a senti comme ça.
C'est parce qu'elle savait qu'on ne fait rien contre une vocation.
Oui, je crois. Je crois que j'avais une détermination telle, et tous les gens qui à l'époque m'ont vu, et Dieu sait si j'ai été embêté beaucoup de gens, avaient cette même impression. Et je crois que c'est ce qui m'a beaucoup aidé, cette détermination absolument totale, que rien ne pouvait effrayer. On me disait, vous voulez faire l'Atlantique Sud. À 17 ans, je disais ça. J'allais voir les gens et je leur disais, comment peut-on monter une opération pour faire l'Atlantique Sud? C'était une folie furieuse. À l'époque, j'avais 20 heures de vol. Enfin, je n'avais aucune expérience d'aucune sorte.
Mais vous saviez qu'un jour, vous feriez l'Atlantique Sud.
Je le voulais. je le voulais vraiment. Et j'ai fait l'Atlantique Sud, c'est tout. Je crois que c'est... Vous savez, lorsque j'ai été posée à Natal, c'était de la tranquillité totale. J'étais bien.
Vous ne vous êtes jamais étonné d'avoir réussi votre coup?
Eh bien, quelquefois, je me suis étonné d'avoir eu cette chance inouïe quand un jour on vient me voir en me disant « Veux-tu faire l'Atlantique Sud ?» J'ai cru à une plaisanterie et j'étais très en colère et j'ai dit qu'elle était de très mauvais goût, cette plaisanterie. On m'a dit « Non, non, on ne plaisante pas du tout, c'est très sérieux. Si tu veux faire l'Atlantique Sud, tu as une possibilité de la faire. » J'ai dit oui tout de suite. On m'a dit, tu es sûr? J'ai dit, absolument sûr. Oui, je pars quand vous voulez.
Mais si une de vos amies venait vous trouver et vous disait, j'ai un monomoteur, j'ai envie de faire cette traversée de l'Atlantique Sud, c'est-à-dire Dakar-Natal, 3150 kilomètres, vous l'encourageriez?
Je ne l'encouragerai pas parce que je n'ai pas le droit de l'encourager. Mais je ne la découragerai surtout pas. C'est arrivé d'ailleurs, j'ai une amie journaliste d'ailleurs aéronautique qui vole énormément et qui est venue me poser la question. Et je lui ai dit, bien sûr. Bien sûr, si tu as tous les éléments, si tout va bien, si tu te sens bien dans ta peau, il n'y a aucun problème. Tu fais l'Atlantique Sud, tu fais l'Atlantique Nord. Aucune difficulté.
Mais votre mari aurait pu vous dire quelque chose?
C'est dans le contrat de mariage.
Aurait pu vous interdire?
C'est dans le contrat de mariage.
Comment, dans le contrat de mariage?
Parfaitement. Je ne voulais absolument pas me marier. Quelle bêtise j'aurais faite de ne pas me marier. Parce qu'on ne peut pas passer à côté de sa vie, de toute façon, c'est ridicule, même pour l'aviation, vous voyez, là, je vais très loin. On ne passe pas à côté de sa vie, on ne passe pas à côté des enfants, je ne crois pas. C'est très important. Et d'autant plus important qu'on a une vie, comme nous, très compliquée, très rapide, où on fait des tas de choses en même temps. Et jamais je n'ai pensé que je pouvais ne pas me marier, ne pas avoir d'enfants. Je ne voulais pas, au départ, avoir d'enfants, je ne voulais pas me marier. Et quand mon mari, qui a été très patient et très gentil, m'a dit « on se marie », je lui ai dit « oui, à condition d'avoir un pavillon », en me disant « ça me donne un délai ». Eh bien, le pavillon était commandé 8 jours après, avec sa première paye, parce que lui sortait aussi de l'école, il sortait des arts et métiers, il avait un mois de travail.
Il est ingénieur, vous
voyez. Il est ingénieur, oui. Et il avait un mois de travail et son premier salaire a été consacré à verser les arts pour une petite maison qui se construisait à La Haye-les-Roses, dans laquelle j'habite toujours et que j'adore.
Il a cru que vous réussiriez, lui?
Ah oui, totalement. C'est un garçon extraordinaire. Enfin bon, oui, c'est un garçon extraordinaire. C'est un cas unique, je crois. Vous savez, je ne vis qu'avec des garçons, qu'avec des hommes, puisque le métier de l'aviation, on approche plus facilement des hommes que des femmes. Eh bien, j'en ai rencontré beaucoup, des très gentils, des très beaux, des très forts, des très grands, des qui chantent bien, des qui chantent mal. Enfin, je n'ai jamais rencontré un autre comme lui.
Vous travaillez beaucoup avec les hommes et vous, peut-être, vous vous méfiez un peu des femmes.
Pas du tout. Moi, j'aime beaucoup les femmes. Elles me surprennent quelquefois quand elles ont des mouvements de défense, alors que nous ne sommes pas attaqués. Elles me surprennent quelquefois, mais j'adore convaincre la femme d'un pilote qui n'est pas convaincue. J'en suis à ma énième femme qu'on m'amène et qu'on me dit tout bas dans l'oreille, il faut absolument, Christa, que tu fasses quelque chose parce que ma femme ne veut pas voler. Tu devrais la faire voler, tu devrais lui expliquer. Et j'adore ce rôle. C'est un rôle très agréable d'abord pour une femme. Et pour un pilote, c'est toujours agréable de convaincre.
Lorsque vous avez tenté cette aventure, vos enfants étaient très jeunes.
Très jeunes, oui.
Bon, il y a 10 ans, ils ont 10 ans de plus, ils doivent avoir quel âge? 13, 14
14 ans.
14 ans. Vous leur parlez de cet exploit, de cette traversée, de ce tour du monde?
C'est très difficile. C'est très difficile. Je ne sais pas si je peux vous le dire, mais ce n'est pas un secret, parce qu'en définitive, c'est la réalité de la vie, et puis que je suis comme ça, et que des tas de choses agréables me sont arrivées. Il était normal qu'il m'arrive quelques petites mésaventures. J'ai perdu une fille. J'ai perdu ma fille aînée.
Pardon.
Et à l'époque, elle était là. Et mon fils a subi un très gros choc, en définitive. Et cette mère qui l'a vu à la radio, qui l'a entendu à la radio, pardon, qui l'a vu à la télévision, qui l'a vu sur les journaux, il est extrêmement discret, replié sur lui-même. C'est une chose dont il parle très peu. Et je suis contente qu'il en parle peu, parce que ça m'ennuierait que cet enfant proclame, marche dans la rue en proclamant « ma mère a traversé l'Atlantique » ou « ma mère a fait ci, ma mère a fait ça ». Pas du tout. Je crois même que ses camarades très proches ignorent que la mère de Sylvain pilote. Et je trouve ça formidable.
Il vous paraît difficile de vivre ?
Dans certaines circonstances, oui.
Donc vous avez beaucoup de choses à prouver, vous voulez encore peut-être
tenter
un nouvel exploit ?
La vie est un exploit journalier, de toute façon.
Ouais, surtout dans le malheur.
Oui, parce qu'on ne peut pas tout avoir, c'est pas possible. Et quelquefois, quand les gens me disent, c'est très souvent, les gens me disent, vous avez beaucoup de chance, j'ai quelquefois cette espèce de petit mouvement de recul en me disant, oui, bien sûr. Et quand quelquefois des femmes me disent, ah, vous avez une vie extraordinaire, que je vois autour d'elle trois enfants merveilleux, j'ai des doutes.
On n'a jamais peur de sa propre mort. Ce qui est inquiétant, c'est la mort des autres.
C'est vrai.
Surtout lorsqu'ils sont très près du cœur.
C'est vrai.
Dans votre avion, vous n'aviez pas cette peur, et vous l'aviez dit dès le départ.
Ah non, absolument pas.
Tout de même, la panne, on peut dire,
la
machine ne va pas tenir.
Ça n'existe pas, la panne. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de raison.
D'ailleurs, si on se disait tout cela, on ne partirait jamais.
Bien sûr, mais vous ne partiriez pas en voiture non plus, parce que ça serait imaginé.
C'est drôle, vous revenez toujours à la voiture.
Oui, forcément.
C'est l'élément de comparaison.
C'est l'élément de comparaison, forcément, puisque c'est l'élément que les gens connaissent le mieux. Ce qui me sidère le plus, voyez-vous, c'est combien les gens sont loin de l'aviation. Et je crois que plus le temps passe, plus ils en sont loin. Ils s'imaginent que ce monde de l'aviation est un monde fermé, un monde difficile, un monde acrobatique, alors que c'est absolument faux. C'est un monde de gens extrêmement tranquilles. Je vais vous dire un petit truc marrant. L'autre jour, mon mari ingénieur, pour rendre service à sa femme, le dimanche fait l'essence sur l'aérodrome de Logne. Et l'autre jour se présente un client connu dans le grand public. Jean-Pierre Beltoise venait faire le plein de son avion. Et Jean-Pierre Beltoise, qui est assez taciturne en définitive, était ce jour-là gentil, il avait envie de parler. Alors il dit à mon mari, vous me faites les pleins complets. Alors mon mari lui dit, très bien, vous partez en voyage. Alors il lui dit, oui, je pars en voyage, je fais mon second degré. Le second degré, vous savez, c'est la consécration, c'est le diplôme que j'ai moi-même actuellement, donc c'est la consécration d'un pilote.
C'est-à-dire, c'est combien d'heures de vol ?
C'est environ 50, 70 heures de vol à peu près. C'est l'examen qui va vous permettre après de voyager, d'emmener vos amis, etc. Eh bien, il était tout ému, cet homme. Il allait à Auxerre, c'était pire que moi pour l'Atlantique. Hein. Il était très ému, et quand il est revenu le soir, il était merveilleusement bien, parce qu'il avait lui aussi ramené son avion et fait son vol. Vous voyez que les gens doivent garder beaucoup de simplicité face à l'aviation. Il ne s'agit pas d'un monde à part, on réagit dans l'aviation, comme dans tous les domaines, dans tous les milieux. On a des petits moments d'incertitude, puis on a des moments de grande joie.
Mais il y a tout de même un sentiment de domination, de puissance, cet avion qui vous obéit, vous êtes près du ciel, entre le ciel et la terre. Mais lorsque vous êtes en voiture, c'est autre chose, c'est tout à fait différent,
chose,
même à 360 à l'heure, comme sur le parcours du Mans.
Oui, peut-être, mais je ne crois pas, vous savez. La preuve, c'est que lorsqu'on amène quelqu'un qui n'a jamais volé, et Dieu sait s'il y a des gens qui n'ont jamais volé, c'est impressionnant. Quand on amène pour la première fois quelqu'un en avion, la première réflexion, c'est de dire que c'est doux, on a l'impression de ne pas bouger. Vous savez, l'avion, c'est stable et c'est le sol qui défile sous les roues. On n'a pas l'impression de vitesse, bien sûr, parce qu'en voiture, on voit deux peupliers. En avion, on voit 50 km de terrain, 25 km devant, 25 km à droite. Quand je dis 50, c'est beaucoup plus. 25 km sur le côté gauche et 25 km derrière vous. Et tout ce paysage qui se défile lentement, puisque 25 km, il faut quand même les parcourir, même si vous les faites en 4 minutes. Pour les gens, ils ont l'impression totale que l'avion est suspendu en vol et que ça ne bouge plus et que c'est formidable de voler.
Enfin, il y a toute une mythologie de l'aviation.
Ah, oui,
et il y a également une mythologie grecque.
Ah, oui,
vous êtes
de
parents grecs.
Je suis l'arrière-petite-fille d'Ulysse. J'ai eu beaucoup de mal à faire comprendre ça à mon fils, mais maintenant il en est très fier.
Et votre mère connaissait bien Homère.
Et oui, et j'ai été élevée.
Elle le connaissait par cœur, peut-être.
Mais je connais par cœur Homère, et maman, étant petite, enfin petite fille, ne me racontait pas les contes de Perrault, me racontait l'Iliade et l'Odyssée. Et j'ai été élevée à l'Iliade et l'Odyssée. Alors est-ce que c'est une des raisons pour lesquelles j'ai vu très tôt les choses différemment de mes petites camarades de classe? Parce que je me souviens très bien de drames, quand on a parlé des larmes d'Andromaque. Toutes les petites filles étaient émerveillées, les larmes d'Andromaque, les larmes d'une mère, etc. Et moi, j'ai dit à mon professeur de français, qui était une demoiselle, je lui ai dit, mais je me suis mise très en colère, et je lui ai dit, mais ce ne sont pas du tout des larmes de mère, ce sont des larmes de femme. Elle pleure ce mari qu'elle adore et qu'elle recherche partout, elle ne veut pas de ce Pyrrhus, etc. Et ça fait un drame. Je suis une fille épouvantable, vous savez.
Chrysa Pellissier, lorsqu'on a fait, comme vous l'avez fait, le tour du monde à bord d'un monomoteur, lorsqu'on a fait cette traversée de l'Atlantique, donne-t-on un autre sens à la vie?
Oui, mais en ce qui me concerne, il est très étroit. Le chemin est très étroit. Je ne vois qu'une sortie, qu'une issue. Voir cette aviation française, cette aviation générale française, prendre un plus grand essor. Sortir. Ne plus entendre les gens parler de nos petits avions. Quand un contrôleur de tour me dit « votre petit avion », ça me rend folle. Mon petit avion, il fait le tour du monde. Il vaut un Boeing 707, il vaut un Boeing 747. Et ça, on aura beaucoup de mal parce que on n'a pas voulu former nos contrôleurs, on n'a pas voulu former nos moniteurs au départ, nos contrôleurs ensuite, les gens qui s'occupent de nous, qui nous entourent, on n'a pas voulu les former à ce principe sacro-saint aux États-Unis. Un avion, sans précision, est un trafic aérien et il est traité comme tel.
On en revient à ce que nous disions tout à l'heure. On va encombrer le ciel, on va encombrer la terre.
Il y a trois dimensions.
Si chacun d'entre nous a son avion, ça va faire du bruit.
De toute façon, il est peut-être plus facile de mettre quatre personnes dans un avion que quatre personnes dans une voiture, suivant une certaine formule. Mais je crois que, de toute façon, le ciel est plus grand que la terre, puisque le ciel a trois dimensions et que le ciel est immense. Vous savez, je veux pas être méchante avec personne. Moi, j'adore tous les gens qui m'aident en vol. Et Dieu sait s'ils me connaissent bien, cette voix de fille qui passe et ce golfe Zoulou. Tout le monde connaît cette immatriculation. Ce Zoulou, j'ai toujours eu Zoulou à mes immatriculations. J'ai toujours marqué mes avions avec ce Zoulou final.
Pourquoi Zoulou?
Parce que le hasard a voulu que tous mes premiers avions portent cette marque Zoulou. Et tous les avions qui ont été faits à mon usage, c'est-à-dire à titre de démonstrateur au départ, puis maintenant à titre commercial, j'ai toujours voulu qu'il porte cette marque parce que, d'abord pour moi c'est plus facile, je me souviens, Zoulou c'est très facile, comme on emploie que la dernière lettre, c'est beaucoup plus facile à utiliser, et c'est amusant, non?
Vous pensez que tous ceux qui vont se consacrer à l'aviation se souviendront de Chrysa Pellissier, êtes-vous inscrite
pour... Ah non,
pour
pas du tout, puis je souhaite vivre.
Si, Adrienne Bolland, Maryse Bastier, Jacqueline Auriol, on en parle.
Oui.
Chrysa Pellissier aussi.
Mais je souhaite vivement que ce soit pas sous cette forme-là, parce que voler, ce sera parler de moi. Bon, c'est tout simple, ça, hein, comme formule. Tout simple. Mais en fait, pour moi, si demain, on a ce qu'on appelle, nous, les pilotes de tourisme, le VFR de nuit, c'est-à-dire le vol de nuit autorisé, avec nos avions de tourisme.
Si vous on pensez a qu'on demain, vous le donnera?
Mais il existe en Amérique. Quand on passe les frontières, je disais un jour à un directeur du service de la formation aéronautique, je lui disais, mais croyez-vous qu'on soit plus intelligent lorsque l'on est de l'autre côté des frontières que lorsque l'on est en France? Puisqu'en Allemagne, j'ai le droit de voler VFR de nuit. En Amérique, j'ai volé de nuit. Je me suis même offert le luxe de faire ce qui a étonné les Américains. Et Dieu sait, c'est pas facile de les étonner.
Mais pour vous, oui.
J'ai
pour
fait
vous,
Los Angeles Denver de nuit avec le passage des Rocheuses de nuit. C'est un vol extraordinaire que les Américains ne font jamais, justement, précisément parce que le danger des Rocheuses est grand et qui, pour les passer, elles sont très hautes. Et là, j'ai fait une bêtise, en fait, parce que moi non plus, je n'aurais pas dû faire ce vol en vol de nuit. Mais je l'ai fait parce que, pour une fois, on m'avait dit, vous êtes autorisé. Ah, c'est comme le garçon à qui le père, le soir, donne ses clés de contact de voiture et lui dit, ce soir, je te prête ma voiture. Il la casse à tous les coups.
Chrysa Pellissier, vous savez que sur la route, il n'y a pas d'interdiction. Sur le plan de l'âge, un homme de 80 ans peut conduire.
Oui.
En aviation, y a-t-il des règles?
Non, il n'y a pas de règles du tout. Il y a une règle de santé. On passe une visite médicale tous les ans. Et j'ai un ami qui a maintenant 85 ans, qui vole toujours.
Vous pensez qu'en voiture, il faudrait également passer des
visites? Je pense que la visite médicale est une très bonne chose. Je ne sais pas si c'est indispensable de la passer pour la route, mais enfin, on se considère pour l'aviation que c'est indispensable. Et je pense que pour la route, ça ne ferait pas de mal.
On va prendre une autre pause musicale. Chrysa Pellissier, nous sommes arrivés à la fin de cet entretien. Je voudrais savoir ce que vous diriez à ceux qui n'aiment pas l'aviation, du moins à ceux qui n'ont pas encore réussi à la comprendre.
Eh bien,
c'est aviation de plaisance. C'est-à-dire, oui. L'aviation, pour moi comme pour vous, c'est être à bord de son avion et avoir le manche à balai.
Le volant.
Oui.
Les commandes, tout simplement. Eh bien, si les gens sont restés à l'extérieur de l'aviation, il y a deux raisons. La première, c'est qu'ils ne connaissent pas. Donc nous sommes là, tous les pilotes sont là pour leur faire connaître. Et la deuxième raison, c'est qu'ils peuvent être souffrants. Quelqu'un peut être malade. Quelqu'un peut par une maladie, soit le foie, soit les nerfs, soit toutes sortes de choses, peut ne être totalement fermé à l'aviation. Mais je pense que c'est ou l'ignorance ou cette maladie qui éventuellement empêche de voler. Sinon, le restant, je ne vois pas pourquoi les gens resteraient à l'extérieur.
Il y a une jouissance en vol, il se passe des choses là-haut.
On est bien.
On est bien.
On est bien, on est tranquille, on est heureux, c'est sûr. Vous pouvez avoir n'importe quel souci, avoir fait n'importe quoi dans la journée, vous décollez, vous laissez au sol absolument tout. Il y a une espèce de coupure. Vous savez, cette espèce d'aventure que devaient connaître les gens lorsqu'il y a peut-être 40 ans, je ne me rends pas compte, ils prenaient leur voiture et ils faisaient 30 km dans les bois, seuls. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Eh bien, l'avion, c'est ça. L'avion, c'est pour vous tout seul, un spectacle pendant une heure, deux heures, suivant la durée du vol. Pour vous tout seul, on fait une féerie de lumière sur des nuages qui sont plus magnifiques les uns que les autres. Et pour vous tout seul, la Terre s'offre à vous sous un aspect très particulier au moment où vous la regardez. Et je vous dis bien, toute cette mise en scène qui est absolument incroyable, elle est pour vous tout seul.
Chris Apellissier, lorsque vous revenez du ciel et que sur Terre vous reprenez contact avec
c'est
votre
dur.
Voiture. Non, mais la voiture
dur.
Doit vous paraître un engin de notre monde, enfin, terriblement arriéré.
C'est terrible. C'est terrible. Et je suis très malheureuse en voiture. D'abord, j'ai très peur et je suis très malheureuse. Et puis, on s'ennuie, puis les gens sont tristes, et puis tout est laid. Vu d'avion, tout est beau, tout est propre. Rien ne paraît sale. Rien ne paraît encombré. Une file de voitures, elle a l'air très sage sur une route. Vu d'avion, tout est magnifique. Vu du sol, tout est horrible.
Certains aviateurs, vous le savez, veulent rester entre eux dans le ciel, entre
oui.
gens privilégiés. C'est,
oui.
C'est vraiment comme un cercle. Vous n'êtes pas de cela.
Non, pas du tout. Le cercle est largement ouvert. Il faut rentrer dans ce cercle. Et puis, alors là, j'ai eu l'opinion encore un peu déformée parce que je suis une fille. Et tous ces hommes qui aiment ce ciel et qui se le veulent pour eux tout seuls, pour la petite fille que je suis, veulent bien l'ouvrir aussi. Alors, on accepte quelques... Vous savez, vous voulez, les contrôleurs, par exemple, les contrôleurs, les fameux aiguilleurs du ciel, ce qu'on appelle les aiguilleurs du ciel, je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. Enfin, les contrôleurs de tour, un garçon les appelle, un monomoteur les appelle avec un pilote masculin, le pilote est plus ou moins bien reçu. Quand c'est Chris Apellissier qui appelle, c'est merveilleux. C'est du genre, le genre de message, bonjour madame, je demande poliment, je suis à tel niveau, je tiens tel cap, est-ce que je peux continuer sur cette route? Mais certainement madame, on va dégager les avions devant vous, enfin, c'est extraordinaire. Et un de mes amis me disait un jour, après un voyage avec moi, il me disait, j'ai parfaitement compris, je rentre, je mets la prochaine vol, je mets une jupe et une perruque, et je n'aurai plus de problème.
On sait qu'on est sensible au charme d'une femme.
Oui, une gentillesse certaine. Auprès des météos, auprès des techniciens, auprès de tout le monde, c'est formidable.
Mais
d'ailleurs,
vous,
je disais...
Vous ne vous êtes jamais demandé si c'était seulement pour Chris Apellissier?
Non, c'est
attention.
La femme. C'est la femme.
La femme,
c'est
en général.
Femme, c'est la femme en général. Et je disais, d'ailleurs, que en ce qui concerne le tour du monde, vous savez que le monde, c'est la guerre permanente, c'est les ennuis, c'est les difficultés, c'est incroyable, les problèmes qu'on peut avoir au sol. Je disais toujours, je suis passée parce que je suis une fille. Un garçon ne serait pas passé. Un garçon serait retrouvé en prison au moins deux ou trois fois.
Enfin, vous avez réussi toute une série d'exploits. Je rappelle encore que vous avez réussi l'Atlantique Sud, la traversée de l'Atlantique Sud, 3150 km, le tour du monde. Donc, à bord d'un monomoteur, vous pourriez conduire un Boeing, enfin un avion avec des passagers. Posé cette question?
Non, je ne me la suis pas posée, mais je dis oui tout de suite. Je peux sûrement. Il n'y a aucune raison que je ne puisse pas. Et monsieur tout le monde peut demain conduire un Boeing 707 à condition de suivre la formation nécessaire à la conduite d'un Boeing 707. Mais je ne vois pas pourquoi. N'importe quel pilote de ligne conscient vous dirait la même chose que moi. Ils ont appris à piloter, ils ont suivi une formation et ils sont arrivés sur Boeing 707. Et demain, un pilote de Boeing 707 aurait beaucoup de mal à maîtriser ma petite machine.
Enfin, aller dans le ciel, pour vous, cela n'est pas un exploit.
Ah non, c'est à la portée vraiment de beaucoup de gens. Et j'aimerais que tous ceux qui sont quelque chose dans notre vie future de pilote le comprennent une fois pour toutes, que nous sommes des gens normaux et que nous pouvons nous intégrer dans des circuits normaux.
Vous pensez qu'un jour, vous referez cette route du Tour du Monde, que vous referez la traversée de l'Atlantique Sud?
Je continuerai. Il est possible que je n'en fasse jamais la traversée de l'Atlantique Sud ou jamais la traversée de le Tour du Monde. Il est possible que plus jamais ça ne se représente. Mais je ferai Paris-Bordeaux ou je ferai Paris-Saint-Brieuc et je convaincrai quelqu'un à l'aviation. J'amènerai quelqu'un qui se posera en disant « mais l'avion, c'est vraiment... jamais je n'aurais imaginé que ce soit aussi beau ». Et je serai aussi satisfaite que lorsque je me suis posée à Rio.
Et le jour où on dira à Chris Apellissier, c'est fini, vous ne pouvez plus voler.
Alors pourquoi me le dirait-on? Je suis assez grande pour le savoir moi-même. Oh oui, oui, on le sait, sûrement.
Ça, ça tient à quoi?
Sûrement, parce que quand on est conscient et qu'on est raisonnable, on sait.
On ne se fait plus confiance à certains moments.
Je ne peux pas le dire parce que ça ne m'est pas arrivé, mais enfin, j'ai vu la chose se produire chez les amis, et ça s'éteint doucement, ils s'éloignent, ils s'en vont. Certains disent, je me suis fait peur, ou certains disent, ça ne me plaît plus, je ne suis plus à l'aise. Ceux qui sont honnêtes, d'autres disent, je n'ai plus le temps.
À ce moment-là, c'est véritablement la déchirure.
Certainement, oui, ça ne doit pas être facile.
Votre mari est monté avec vous en avion?
Ah, bien sûr, mon mari est pilote,
vous
de toute façon.
Ah bon, mais vous aux commandes?
Ah oui, très souvent. Moi aux commandes, lui aux commandes, nous rattachés, vous voyez, avion planeur, lui dans le planeur, moi dans l'avion, lui dans le planeur. Enfin, on a volé dans toutes les conditions, oui, sûr.
Je crois avoir compris tout au long de cet entretien que, pour vous, l'aviation, c'est surtout demain. Ça n'est pas hier.
Hier, c'est fini. Terminé, on n'en parle plus. Je suis très contente de tout ce qui s'est passé.
D'avoir fait tout ce
que voilà. Mais je souhaite que demain m'apporte le maximum. Non, non, c'est jamais terminé pour moi. C'est surtout demain qui compte.
Merci, Chrissa Pélissier.
Merci, monsieur.